et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction,
obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
J'écris pour les morts. Pour ceux qui ne sont pas nés. 448, Psychose.
Auteur marquante du théâtre contemporain, on aime ou on déteste. Généralement, c'est à double tranchant. Les sujets qu'elle touche, de l'humanité à l'individu lui-même, trouvent écho encore aujourd'hui et ses pièces sont régulièrement jouées. Son écriture chamboule les codes de la représentation. Sarah Kane marque toujours son époque. Petit tour d'horizon pendant une heure sur Radio Canu. Avec nous aujourd'hui, Anaïs Sintas à la technique et en lecture. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
En lecture également, Stéphane Perrichon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et c'est Samuel Tarlet. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Trop trash, je trouve ça gratuit. C'est souvent ce que j'ai entendu au sujet de Sarah Kane. Du coup, j'avais envie de replacer sa dramaturgie dans le contexte de la littérature théâtrale de l'époque. Et je vais pas mal utiliser de citations tirées de l'ouvrage « Voyage au bout du possible, les théâtres du traumatisme ». Je vous redonnerai toutes les références en fin d'émission.
Pourquoi ne suis-je pas morte à ma naissance ?
C'est dans Manque. Née le 3 février 1971 à Brentwood dans le comté de l'Essex, Sarah Kane fait ses études d'art dramatique aux universités de Bristol, dont elle sort brillamment diplômée, et Birmingham de 91 à 93. Elle y met en scène L'Ours de Tchekhov, Macbeth de Shakespeare, Top Girls de Caryl Churchill, Low Level Panic de Claire McIntyre. C'est toujours dans le cadre du théâtre universitaire qu'elle met en scène et présente Blasted, anéanti en français, en 1993. Le texte est d'abord édité une première fois en 1994 dans un recueil collectif, puis la pièce s'est créée au Royal Court Theatre en 1995, avant d'être publiée en 1996. Et c'est lors de cette seconde mise en scène de James MacDonald qu'arrive le scandale médiatique et la polémique dans la presse. L'été 1995, Sarah Kane écrit le scénario de Skin, un court-métrage de 11 minutes tourné par Vincent O'Connell en septembre 1995. En 1996, elle publie également Phèdre's Love, l'amour de Phèdre, et met en scène la pièce au Gate Theatre à Londres. Elle met en scène en 1997 Wojciech de Buchner dans une nouvelle traduction au Gate Theatre. En 1998, elle publie Cleansed, purifié, et Crave, manque. Cleansed est créé au Royal Court dans une mise en scène de James MacDonald, où Sarah Kane reprendra le rôle de Grace lors des trois dernières représentations. Crave est créé au Festival d'Édimbourg par Painsplough Theatre Company dans une mise en scène de Vicky Featherstone et reçoit un succès critique. La pièce est reprise à Londres, au Royal Court Theatre, et tourne en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande, en Italie. Et lors de cette tournée, Sarah Kane reprend le rôle de C pour quelques représentations. Elle se suicide à Londres le 20 février 1999. Elle a 28 ans. 448 Psychosis, 448 Psychose, sa dernière pièce, sera publiée en 2000. Donc voilà, pour moi il était important de replacer le contexte dans lequel le théâtre anglais s'inscrit à l'arrivée de Sarah Kane. Donc tout d'abord, historiquement, il faut savoir que la censure n'est abolie en Angleterre qu'en 68. Pendant longtemps, il n'y a que des classiques et des comédies un peu poussiéreuses. Et dans les années 70, on a une nouvelle génération d'auteurs qui est vraiment marquée par les événements d'Auschwitz, les découvertes de l'après-guerre. Édouard Bond disait dans un de ses écrits théoriques, je cite, « Je suis un citoyen d'Auschwitz et un citoyen d'Hiroshima ». On comprend alors que pour le théâtre anglais contemporain, il s'agit de révéler que l'humanité se construit par l'inhumanité. Alors, choc frontal, esthétique de l'abjection, le théâtre anglais définit en sorte un nouveau théâtre de la cruauté et nous plonge dans l'interrogation du fondement de l'éthique. La mise en scène de la barbarie défie la morale en même temps qu'elle la refonde. La montrer, c'est la reconnaître. D'ailleurs, Sarah Kane a déclaré à propos de Saved, une pièce d'Edouard Bond, je la cite, « Quand j'ai lu Sauvé, j'ai été profondément choquée par la lapidation du bébé. Puis je me suis dit, si on prétend qu'on ne peut pas prétendre quelque chose, qu'on ne peut pas, pardon, si on prétend qu'on ne peut pas représenter quelque chose, alors on nie son existence. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement borné. » J'ai bien aimé d'ailleurs le mot qu'elle utilise, borné. Comme si, jusqu'à maintenant, tout le monde était resté dans un endroit bien délimité, bien propre. Un lieu où il ne faut pas faire de vagues. Et c'est bien sûr tout le contraire dans ses œuvres, mais pas que. Donc on revient à la cruauté, à la barbarie, à Auschwitz, donc. Comment en parler? Comment représenter? Comment, en fait, ne pas salir une mémoire, mais la porter? L'intérêt principal est là, c'est le renouvellement de la forme théâtrale. Trouver une langue qui mette à distance le traumatisme pour mieux le faire comprendre. Ce théâtre-là ne présente ni catharsis, ni rappel à l'ordre. Il s'agit de retenir l'attention du spectateur et appeler à l'analyse. On peut essayer de voir rapidement l'évolution. J'ai choisi de commencer par Beckett. Il faut savoir qu'il a commencé, lui, à écrire en 1947. Donc Beckett, lui, voulait sortir de l'impasse du représentationnel. Donc il est allé dans la stylisation, c'est ça, un retour au réalisme le plus cru. Et là, je cite une analyse qui est très intéressante. Ce qui est marquant chez Beckett, c'est que sa dramaturgie donne à voir l'homme hors contexte, hors temps, hors lieu, et s'emploie à réfléchir sur l'essence de l'homme universel. Beckett met en place en fait une dramaturgie du pire dans le théâtre contemporain anglais. Une autre analyse a été faite, je la cite, « Si le corps de la langue est soumis, comme le corps des détenus, à toutes les distorsions, micro-tortures, tant lexicales que syntaxiques et grammaticales, les pièces que construit Beckett relèvent de cette même esthétique de la torture, de l'évidement, du creux. » S'élabore ainsi une esthétique de la négativité que les dramaturges contemporains déclineront sous toutes ses facettes. Avec Beckett, du coup, on comprend qu'on est dans ce que Steiner, un écrivain et philosophe, appelle une période de transition entre l'ère historique de la primauté du verbe et une phase de dépérissement du langage, de forme post-linguistique et peut-être d'un silence au moins partiel. Et c'est vrai que chez Beckett, le langage survit au silence et illustre la part de l'homme dans sa propre destruction. En fait, le silence est sémantisé. Pinter, qui a commencé à écrire en 57, si on prend l'exemple de Ashes to Ashes, on découvre qu'il met en place une dramaturgie de la fragmentation, une abolition de la cohérence du présent et du personnage. La fragmentation des corps et le langage morcelé, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Kane. Beckett met également en lumière le dédoublement et la schizophrénie inhérents à toute énonciation de l'acteur, et le ventriloquisme de l'acteur qui perpétue le syndrome de névrose post-traumatique. Et cette idée est poussée à l'extrême chez Kane avec Manque. On voit que la mise en voix du traumatisme, pour ça, le narratif n'est plus opérationnel. Pour Bond, chez Pinter, il y a un danger d'esthétisation de la Shoah. Il s'oriente donc vers une nouvelle définition du réalisme traumatique. Dans les pièces de guerre, Warplays, les événements ne sont pas vrais, mais les métaphores le deviennent. Le public parvient à une compréhension fondée sur une réalité spécifique et concrète. Pour Bond, seule la poésie peut l'exprimer. Pour lui, la poésie va toujours vers une révélation. Il s'agit de, je cite, « solliciter l'imagination pour recréer l'expérience » et donc le savoir. Voilà un peu pour ce qui s'est passé avant Kane et pour les influences. J'en passe, hein, bien sûr, notamment Barker. Mais bon, je ne veux pas faire de cours magistral et on n'a qu'une heure d'émission. Du coup, Sarah Kane, elle, a envie d'écrire un théâtre de l'expérience. Comme Bond et Barker, c'est une dramaturge politique. Comme Pinter ou Crimp, elle traduit le politique en termes intimes. À la même époque où elle écrit, il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ont été regroupés dans un mouvement que les critiques appelaient « brutalité nouvelle ». Là, je vais faire une petite citation de critiques Michael Billington et Lynn Gardner à propos de cette nouvelle production dramatique. « C'est en partie une réaction contre l'uniformité et la grisaille de la télévision, et contre chaque pièce, sinon chaque film, manquant totalement de vie. » Ce qui, en ce moment, inspire également les nouveaux auteurs est une absence totale d'illusion, souvent exprimée avec désinvolture quant à la désintégration de la société, plus spécialement quant à la faillite de tout code moral ou de tout sens collectif de la démence. On parle aussi d'ailleurs de théâtre in your face, le théâtre coup de poing, le théâtre des nasty 90s. En tout cas, Sarah Kane, elle s'est toujours défendue d'appartenir à un mouvement. Pour elle, ils sont créés par les médias et ils excluent plus qu'autre chose. Je la cite également. Elle l'a dit donc en 95. On a estimé qu'Anéantie marquait le début d'un mouvement qualifié de « brutalité nouvelle ». Un dramaturge écossais s'est vu dire qu'on ne pouvait qualifier de « nouveau » ce qu'il avait écrit parce que sa pièce n'était pas suffisamment brutale. C'est bien là le problème avec les mouvements, car ils excluent plus qu'ils n'incluent. En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Nous allons tout de suite vous proposer un premier extrait d'Anéantie. Anéantie, Blasted, 1995.
Ça te fait pas peur ?
Quoi ?
La mort.
De qui ?
La tienne.
Juste pour moi. Elle serait malheureuse si je mourais.
Tu es jeune. Quand j'avais ton âge, maintenant.
Il faut que tu ailles à l'hôpital.
Ils peuvent rien faire.
Stella le sait.
Pourquoi j'aurais besoin de lui dire ?
Vous avez été mariés.
Et alors ?
Il faudrait qu'elle sache.
Pour qu'elle fête ça avec ses sorcières.
Elle ne ferait pas ça. Et Matthew ?
Quoi, Matthew ?
Tu lui as dit ?
Je lui enverrai un carton pour les funérailles.
Ça va l'inquiéter.
Il me hait.
C'est pas vrai.
Putain, mais si.
Ça t'inquiète ?
Oui. Sa mère est une gouine. Est-ce que je ne vaux pas mieux que ça ?
C'est peut-être une gentille personne.
Elle trimballe pas un revolver.
Bah, j'imagine que c'est pour ça.
J'ai aimé Stella. Jusqu'à ce qu'elle devienne une sorcière et aille se faire baiser par une gousse. Et je t'aime. Même si tu as tout ce qu'il faut pour...
Pourquoi ?
Pour lécher une fente. Tu as jamais tiré ton cou avec une femme ?
Non.
Tu as envie ?
Je crois pas. Et toi, avec un homme ?
Tu crois que je suis un suceur de queue ? Tu m'as regardé ?
Il montre vaguement son sexe.
Comment tu peux penser ça ?
Je pense pas. Je demandais, tu m'as demandé.
Tu t'habilles comme une gouine. Je ne m'habille pas comme un suceur de queue.
Il s'habille comment ?
Hitler avait tort pour les juifs. Ils ont fait du mal à qui ? Plutôt s'attaquer aux PD ? Les liquider, eux, et les bronzer, et ces enfoirés de supporters de foot, expédier un bombardier sur Elland Road, les achever.
Il se verse du champagne et porte un toast à son idée.
J'aime le foot.
Pourquoi ?
C'est bien.
Et c'est quand la dernière fois que tu es allé à un match ?
Samedi. United a battu Liverpool, 2-0.
Tu n'as pas reçu un coup de couteau ?
Pourquoi ? J'aurais dû.
C'est fait pour ça, le foot. C'est pas fait pour combiner des passes et marquer des buts. C'est tribal.
J'aime ça.
C'est sûr, à peu près ton niveau.
Je vais à Highland Road de temps en temps. Tu lâcherais une bombe sur moi ?
Pourquoi il faut que tu me poses ce genre de questions ?
N'empêche, tu le ferais ?
Ne sois pas lourde.
Mais tu le ferais ?
Je n'ai pas de bombardier.
Me flinguer alors, tu pourrais faire ça ?
Kate !
Tu penses que c'est dur de flinguer quelqu'un ?
Aussi facile que de chier du sang.
Tu pourrais me flinguer ?
Tu pourrais me flinguer, arrête de me demander ça. Tu pourrais me flinguer, toi, tu pourrais me flinguer ?
Je crois pas.
Si je te faisais mal ?
Je pense pas que tu le ferais.
On a choisi de lire ses œuvres dans l'ordre chronologique, donc Anéantie est la première. Toute la pièce se passe dans une chambre d'hôtel de Leeds. Il y a trois personnages, Yann, Kate et le soldat. Dans les deux premières scènes, on voit Yann et Kate, le rapport limite incestueux qu'il y a entre deux, et puis plus globalement, le rapport homme-femme, le rapport amoureux, le rapport de force, le rapport à la guerre, à la mort... Dans cet extrait, il y a une référence à Hitler et à la Seconde Guerre mondiale, mais Kane avait à l'esprit la guerre de Bosnie et la politique de purification ethnique qui est menée quand elle a écrit cette pièce. À propos de ça, je cite Kane. Je pense vraiment que les germes d'une guerre de grande ampleur se trouvent toujours dans la civilisation en temps de paix.
Je m'appelle Yann.
Je meurs d'envie de faire l'amour, Yann. T'as une petite amie? J'en ai une. Cole. Une putain de beauté.
Kate.
Je ferme les yeux et je pense à elle. Elle est... Elle est... Enfin, c'est quand la dernière fois que tu... Quand? Je sais que ça fait pas longtemps, je le sens. Tu te souviens?
Cette nuit, je pense.
C'était bon?
Je sais pas. J'étais beurré. Sans doute pas.
On était trois.
Ne me raconte pas.
On est allé dans une petite maison à la sortie de la ville. Tous partis, sauf un petit gosse caché dans un coin. Un des autres l'a sorti dehors, l'a allongé par terre et lui a tiré dans les jambes. J'ai entendu pleurer dans le sous-sol. Je suis descendu. Trois hommes et quatre femmes. J'ai appelé les autres. Ils ont tenu les hommes pendant que je baisais les femmes. Le plus jeune avait 12 ans. Elle pleurait pas, juste allongée là. Je l'ai retournée et puis elle a pleuré. Je lui ai fait lécher ma queue nickel. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à... On a tiré une balle dans la bouche du père. Les frères gueulaient. On les a pendus au plafond accrochés par les couilles.
Charmant.
T'as jamais fait ça?
Non.
Sûr?
J'aurais pas oublié.
Mais si.
Je pourrais plus dormir avec moi-même.
Et ta femme?
Je suis divorcé.
Et t'as jamais...
Non.
Et cette fille qui s'est bouclée dans la salle de bain? Ah.
Tu t'en es fait 4 à la fois, je ne m'en suis toujours fait qu'une.
Tu l'as tué?
Yann fait un mouvement vers son revolver.
Fais pas ça. Je serai obligé de te flinguer. Et je me retrouverai seul.
Bien sûr que non.
Pourquoi pas? T'as pas l'air de beaucoup l'aimer?
Je l'aime. C'est... une femme.
Alors?
J'ai jamais... C'est pas...
Quoi? Je croyais que t'étais un soldat.
Pas comme ça.
Pas comme ça, ils sont tous comme ça.
Mon boulot...
Même moi? Obligé. Ma copine... J'y reviens pas. Quand j'y reviens... Elle est morte, tu vois. Saloperie d'enculé de soldat. Il...
Je suis désolé.
Pourquoi?
C'est terrible.
Terrible quoi?
De perdre quelqu'un, une femme comme ça.
Tu connais, hein?
Je...
Comment ça, comment?
Comme... Tu disais... Un soldat.
Tu es un soldat.
J'ai pas...
Mais si on t'en donnait l'ordre...
Je peux pas l'imaginer.
Imagine. En service commandé. Pour ton pays. Le pays de Galles. Vermine étrangère. Tu le ferais? Comment?
Rapidement. La nuque. Bam!
C'est tout.
Ça suffit.
À la fin de cette scène, le soldat gobe les yeux de Yann après l'avoir violé. Kate est partie entre-temps. À la scène 4, le soldat s'est tué et Kate revient avec un bébé. Il meurt et elle l'enterre sous le plancher. Kate part chercher à manger, Yann reste seul longtemps et mange le bébé. Donc oui, effectivement, sexe, viol, cannibalisme, torture, questionnement sur Dieu. Sarah Kane montre des actes crus, surtout qui n'ont jamais été montrés sur une scène de théâtre. Et là, scandale. Mais du coup, rapport à la polémique qu'il y a eu autour de cette première pièce de Sarah Kane, il faut savoir quelque chose. D'abord, c'était une période de creux pour les critiques. Ils étaient en attente d'un renouveau, donc ils se sont un petit peu jetés dessus. Je vais d'ailleurs citer un critique, le critique Paul Taylor, à ce propos. Je le cite donc. J'étais présent lorsqu'aussitôt après la première d'Anéanti, deux confrères travaillant pour d'autres journaux ont lancé l'assaut en décidant de faire de cette pièce-là un événement médiatique. Le bien fondé de mon opinion vient de ce que A. Aucun des deux n'avait été profondément scandalisé par la pièce et de ce que B. Par la suite, leur attitude ne fut pas motivée par l'envie de nuire mais par le sentiment presque enfantin de réussir un coup de presse. Ils pensaient que ce serait marrant de sortir le théâtre du ghetto de la chronique théâtrale et d'en faire un objet d'attention générale. Du coup, Sarah Kane a également fait une petite analyse sur cette critique, enfin sur les critiques qu'elle a reçues de manière générale pour Anéanti. Je la cite. Tout art digne de ce nom est subversif par sa forme ou son contenu. Et l'art le meilleur est subversif dans sa forme et son contenu. Et souvent, ce qui dans une œuvre scandalise le plus ceux qui cherchent à imposer une censure, c'est la forme. Je soupçonne que si Anéanti avait relevé du réalisme social, la pièce n'aurait pas reçu un accueil aussi rude. On peut aussi dire que, en fait, la pièce elle a reçu le même accueil que pour certaines pièces de Pinter ou Beckett, avec un mélange de perplexité, d'irritation et de rejet. Et c'est souvent à chaque fois qu'il y a du nouveau.
L'amour de Phèdre, Sarah Kane. Scène 1. Un palais royal. Hippolyte, assis dans une chambre, plongé dans la pénombre, regarde la télévision. Il est vautré sur un canapé au milieu de jouets électroniques coûteux, de paquets vides de chips et de bonbons, et de chaussettes et sous-vêtements sales éparpillés ça et là. Il mange un hamburger, les yeux rivés sur la lumière frémissante d'un film hollywoodien. Il renifle. Il sent venir un éternuement et se frotte le nez pour le prévenir. L'irritation persiste. Il promène son regard autour de la chambre et ramasse une chaussette. Il inspecte la chaussette avec soin, puis se mouche dedans. Il balance la chaussette par terre et continue à manger son hamburger. Le film devient particulièrement violent. Hippolyte regarde, impassible. Il ramasse une autre chaussette, l'inspecte et la rejette. Il en ramasse une autre, l'inspecte et décrète que c'est la bonne. Il enfile son pénis sur la chaussette et se masturbe, jusqu'à ce qu'il éjacule sans le moindre frémissement de plaisir. Il retire la chaussette et la balance par terre. Il entame un nouvel hamburger.
L'amour de Phèdre, Phèdre's Love, 1996. Hippolyte et Phèdre. Ils fixent tous les deux la télévision. Phèdre finit par rejoindre Hippolyte. Il ne la regarde pas. Elle défait son pantalon et lui fait une fellation. Il regarde l'écran tout du long et mange ses bonbons. Au seuil de la jouissance, il laisse échapper un son. Phèdre commence à retirer sa tête. Il la maintient dans cette position et jouit dans sa bouche sans quitter la télévision des yeux. Il lui relâche la tête. Phèdre se rassied, bien droite, et regarde la télévision. Un long silence que seul vient rompre le bruissement du sac de bonbons d'Hippolyte. Phèdre pleure.
Voilà. Fin du mystère.
Tu seras jaloux ?
De quoi ?
Au retour de ton père ?
Quel rapport avec moi ?
C'est la première fois que je suis infidèle.
Ça, au moins, c'était clair.
Je suis désolée.
J'ai connu pire.
Je l'ai fait parce que je suis amoureuse de toi.
Non, pas de ça. J'aime pas.
J'aimerais que ça recommence.
Mais non.
Si.
Et pourquoi ?
Le plaisir.
Et vous avez trouvé ça bon?
Je veux être avec toi.
Mais vous avez trouvé ça bon? Non. Vous détestez ça autant que moi, si seulement vous vouliez bien vous l'avouer.
Je voulais voir ton visage quand tu jouis.
Pourquoi?
J'aimerais te voir t'abandonner.
Mais c'est pas joli à voir.
Pourquoi? Quelle tête fais-tu?
Une tête de gland, comme tout le monde.
Je t'aime.
Non.
Je t'aime si fort.
Vous ne connaissez même pas.
Je veux que tu me fasses jouir.
Ne supporte pas les paroles post-coïtales. Il n'y a jamais rien à dire.
Je veux que tu...
Il ne s'agit pas de moi.
Si.
Tapez-vous quelqu'un d'autre. Imaginez que c'est moi. Il ne devrait pas être difficile. On veut tous la même tête quand on jouit.
Pas quand l'autre vous brûle.
Personne ne me brûle.
Et cette femme?
Ben quoi?
Léna. N'étais-tu...
Hippolyte saisit Phèdre à la gorge.
Ne reparlez jamais d'elle. Ne reprononcez pas son nom devant moi. Ne faites pas allusion à elle. Ne pensez même pas à elle. Compris? Compris? Personne ne me brûle. Putain, personne ne me touche. Alors n'essayez pas.
Il la relâche.
Pourquoi fais-tu l'amour si tu détestes tant ça?
Je m'ennuie.
Je croyais que t'assurais comme une bête. Est-ce que tout le monde est à ce point déçu?
Pas quand je m'applique.
Et quand t'appliques-tu?
Plus jamais.
Et pourquoi?
Parce que ça m'ennuie.
T'es bien comme ton père.
C'est ce qu'a dit votre fille.
Un temps, suite auquel Phèdre se met à le gifler de toutes ses forces.
Elle est moins passionnée que vous, mais elle a plus de pratique. Vous proposez quoi? Une conversion de dernière minute au cas où? Mourir comme si Dieu existait tout en sachant qu'il n'existe pas? Non. Si Dieu existe, j'aimerais le regarder en face sachant que je suis mort comme j'ai vécu. Dans la conscience du péché.
Hippolyte.
Je suis sûr que Dieu serait assez intelligent pour percer à jour une confession venant de moi à la 11e heure.
Sais-tu ce qu'est l'impardonnable péché?
Bien sûr.
Tu risques de le commettre. Il n'y va pas seulement de ton âme, mais de l'avenir de ta famille, ton pays.
Pourquoi j'oublie toujours ça?
Tes inconséquences sexuelles n'intéressent personne. Mais que la nation ait une solide moralité intéresse tout le monde. Tu es le gardien de cette moralité. Tu répondras devant Dieu de l'effondrement du pays sur lequel vous régnez toi et ta famille.
Je ne suis pas responsable.
Alors dément le viol et confesse ce péché maintenant.
Avant de l'avoir commis?
Trop tard ensuite.
Qu'est-ce qui vous travaille le plus? La destruction de mon âme ou l'extinction de ma famille? Je ne risque pas de commettre l'impardonnable péché. C'est déjà fait.
Ne le dis pas.
Merde à Dieu, merde à la monarchie.
Seigneur, baissez les yeux sur cet homme que vous avez élu. Pardonnez son péché né de l'intelligence dont vous l'avez béni.
Je ne peux pas pécher contre un Dieu auquel je ne crois pas.
Non.
Vous croyez en Dieu? Je sais ce que je suis, et serai toujours. Mais vous, vous péchez en sachant que vous confesserez. Puis on vous pardonne, et puis vous recommencez. Comment osez-vous narguer un Dieu aussi puissant? À moins de ne pas croire vraiment.
Il s'agit de ta confession, pas de la mienne.
Alors que faites-vous à genoux? Dieu certes est charitable. À sa place, je vous mépriserai. Je vous rayerai de la carte du monde pour votre malhonnêteté.
Tu n'es pas Dieu.
Non. Un prince, Dieu sur terre, mais pas un dieu. Une chance pour tous les intéressés. Je ne vous permettrai pas de pécher, sachant que vous confesseriez et seriez quitte à bon compte.
Le paradis serait désert.
Un royaume d'hommes honnêtes, péchant en toute honnêteté, et mort à ceux qui essaient de sauver leur peau.
À ton avis, qu'est-ce que le pardon?
Cela vous suffit peut-être, mais je n'ai aucune intention de sauver ma peau. J'ai tué une femme et j'en serai puni par des hypocrites que j'entraînerai dans ma chute. Puissions-nous brûler en enfer. Dieu est peut-être tout-puissant, mais il y a une chose dont il est incapable.
Il y a une forme de pureté en toi.
Il est incapable de me rendre bon.
Non.
Ultime ligne de défense pour l'honnête homme, le libre arbitre est ce qui nous distingue des animaux.
Le prêtre défait son pantalon.
Et je n'ai aucune intention de me comporter comme un putain d'animal.
Le prêtre fait une fellation à Hippolyte.
À vous l'honneur.
Il jouit. Il pose une main sur la tête du prêtre.
Allez, confessez-vous avant de brûler.
Ce que la plupart des gens ont retenu, c'est l'extraordinaire scandale avec lequel commença la carrière de Sarah Kane. La fameuse production de sa première pièce, anéantie en 1995 au Royal Court Theatre de Londres, et son suicide en 1999. Les deux événements ont marqué d'une façon décisive l'histoire récente du théâtre anglais et bien au-delà. Mais il serait dommage que ces événements distraient le lecteur-spectateur de la qualité des cinq pièces qu'elle nous a laissées. Et triste de ne pas découvrir la théâtralité explosive, la poésie des ruines, l'impact émotif et l'humour noir qui sont contenus dans son œuvre. L'amour de Phèdre semble occuper une position singulière parmi ses pièces, et il est de fait très rare qu'un auteur anglais adapte une pièce classique. Le mythe grec de Phèdre, l'histoire d'une reine qui tombe désespérément amoureuse de son beau-fils. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'adaptation s'intègre parfaitement dans l'univers de l'auteur. La dissection d'une émotivité masculine maladive et nihiliste réapparaît, tout comme la question de Dieu et l'impossibilité de se sentir exister sans conduire son corps aux portes de la violence et de la mort. Purifié, cleansed, 1998. La salle blanche. Grace bronze allongée sous un minuscule ray de lumière qui filtre d'une lézarde au plafond. Graham et Tinker l'encadrent.
Tout ce que tu veux.
Du soleil.
Ça ne donnera pas un bronzage régulier.
Je peux t'emmener.
Je sais.
Te nettoyer jusqu'à l'os.
Tiens-moi la main.
Mon soleil.
Graham lui prend une main, Tinker l'autre.
J'ai mal aux couilles.
Tu es une femme.
Grace, la lunatique.
Ça me plaît de te sentir là.
Je serai toujours là. Et là.
Je les entends. Ils m'appellent encore.
C'est bien ce que je dis.
Aime-moi ou tue-moi.
Je peux t'aider.
Je t'aime.
Jure-le.
Oui.
Sur ma vie.
Ne me supprime pas complètement.
Crame.
Fais-le cramer complètement.
Tinker.
Fais-le brûler complètement. Chérie.
Fais-le cramer.
Fais-moi confiance.
C'est l'heure. Tinker lâche la main de Grace. Le courant est branché. Le corps de Grace se tétanise sous le choc qui lui brûle des bouts de cerveau. Le rayon de lumière peu à peu envahit tout. À la fin, il est aveuglant. Alors cette pièce, donc, purifiée, se déroule dans un campus. Et là, on peut faire le parallèle entre campus et camp. Il y a aussi la présence de la neige, qui est une image d'Auschwitz utilisée chez Primo Levi et Charlotte Delbault. Et il y a d'autres parallèles encore qu'on peut faire, notamment entre les cabines et les douches, avec le voyeurisme des cabines de Peep Show dans la pièce, et le voyeurisme des nazis face aux condamnés qui agonisent. Et une réplique assez marquante à la scène 13, le personnage de Rod dit « Chez eux, il y a pire que mourir. Tinker a amené un homme à arracher à coups de dents les testicules d'un autre. Ils peuvent t'enlever la vie, mais sans te donner la mort. » Et c'est vrai que beaucoup de gens, d'analystes et autres, disent que depuis Auschwitz, on sait qu'il existe pire que la mort. Alors, torture, inceste, frère, sœur, image poétique forte aussi, avec des jonquilles qui poussent sur scène à un moment, mutilation, amputation, mammectomie, phalloplastie. Alors, la phalloplastie, pour la petite note, c'est se faire poser un pénis. Quête de l'androgyne. Je cite Hubert Colas. Sarah Kane révèle... affirme ce multiforme de tout individu et elle en témoigne au niveau de la douleur. C'est pourquoi son écriture touche au trouble, à l'inceste, à l'homosexualité, à la violence générée par la sexualité. Elle révèle ces zones de violence psychique extrêmement fortes, de destruction mentale, auxquelles certains êtres parviennent quand la relation amoureuse fait d'eux des victimes et les meurtrit au point que le corps devient un objet abject et que l'idée de faire un pas dans la vie devient insupportable.
Life to end every morning. Looks Had an allergy, oh, Sarah Kane. Diagnosed with special needs. Didn't wake up in the morning. That day was a different story. No one much mourning.
My life was getting boring.
She finally had enough.
Has enough.
A shit taken. Much enough.
Enough.
And those pills were prescription only.
As she died, so very lonely.
And nobody knows her name.
And
she got that all taken.
Dans les trois premières pièces de Sarah Kane, on note l'extrémisme d'un théâtre de l'abjection et de l'apocalypse, avec les influences de Bond et Barker. C'est le théâtre In Your Face, dont je parlais en intro, le théâtre coup de poing, qui regroupe les dramaturges des années 90. Après Cleansed, Purifié, les derniers extraits qu'on vient de vous lire, les pièces ne sont plus construites autour d'intrigues. Dans les deux dernières pièces, Manque et 448 Psychose, on note l'influence de T.S. Eliot, de La Terre-Vaine de Beckett et Attempts on Our Life de Martin Krimp. Se dévoile le théâtre poétique du théâtre des Nasty 90s. L'évolution de l'écriture de Kane fonctionne par choc visuel et s'oriente vers une esthétique du sonore et de la voix. Manque, Crave, 1998. Tu es tombé amoureux de quelqu'un qui n'existe pas.
C'est affreux.
T'es sérieux ?
Oh oui.
Qu'est-ce que tu veux ?
Mourir.
Dormir.
Rien d'autre.
Et le chauffeur du bus perd les pédales, arrête son bus au milieu de la voie, sort de sa cabine, se déshabille et descend la rue, son joli petit cul rutilant au soleil.
Je bois en être malade.
Partout où je vais, je le vois. Je connais les plaques, je connais la voiture, et il croit que je ne connais pas le reste ?
On n'est jamais si puissant que quand on se reconnaît impuissant.
Sans ça, je tremble.
On sent.
Et avec, j'ai la cervelle en bouillie.
J'ai traversé en courant le champ de coquelicots derrière la ferme de mon père. Quand j'ai surgi dans la cuisine, je l'ai vu assis, avec ma grand-mère sur les genoux. Il l'embrassait sur la bouche et lui caressait les seins. Ils ont levé les yeux et quand ils m'ont vu, ma gêne les a fait sourire. Quand je l'ai raconté à ma mère, 10 bonnes années plus tard, elle m'a regardé bizarrement et m'a dit « Ce n'est pas à toi que c'est arrivé. » C'est à moi. Mon père est mort avant ta naissance. Quand c'est arrivé, j'étais enceinte de toi. Mais je ne l'ai su que le jour de son enterrement.
On passe le message.
Il y a quelque part quelqu'un qui appelle ma mort.
Mes doigts en elle, ma langue dans sa bouche.
Je voudrais vivre avec moi-même.
Pas de témoin.
Ah, si cela n'a pas de sens, alors c'est que tu comprends parfaitement.
Ça bosse, ça va. Ça bosse, ça va. Ça bosse, ça va. Ça bosse, ça va.
Est-ce que tu as des relations avec les hommes ?
La seule chose que je voudrais dire, je l'ai déjà dite. Et c'est un peu lassant, putain, de le répéter. Peu importe le degré de vérité, peu importe si c'est l'unique pensée unifiante que possède l'humanité.
Comment peux-tu me laisser comme ça ?
Ma peine n'a rien à voir avec les hommes. Si je suis en dépression, c'est parce que je vais mourir.
Bien avant d'avoir la chance de t'adorer en intégralité, je t'ai adoré en détail au gré de ce que je pouvais capter.
La femme aux yeux de basilic.
Bleu-vert.
Bleu-bleu.
Je n'ai pas la musique, Seigneur. J'aimerais tellement avoir la musique, mais tout ce que j'ai, c'est les mots.
Du bist die Liebe, mein Liebe.
Ne m'élimine pas.
J'ai un truc à l'intérieur qui gigote comme un bâtard.
Une douleur sourde au plexus solaire.
Le gag pour gay.
Tu as déjà été hospitalisé ?
Douleur par suite d'association.
Il me faudrait un miracle pour me sauver.
Pourquoi ?
Démence.
Anorexie, boulimie.
Ce que l'on voudra.
Non.
Certainement pas.
Désolée.
La vérité est simple.
Je suis mauvaise, je suis abîmée et personne ne peut me sauver.
La mort est une option.
Je me dégoûte.
La dépression est inadéquate. C'est un effondrement émotionnel à grande échelle qui serait le minimum requis pour justifier qu'on laisse tomber tout le monde.
La solution du lâche.
Je n'ai pas le courage.
Je pense à toi.
Rêve de toi.
Parle de toi.
Rien à faire pour que tu me sortes de la tête.
C'est ok.
Moi, ça me plaît que tu m'occupes la tête.
Aucune performance exigée.
Un beau matin du mois de mai.
Non, c'est pas ça.
Tu pourrais être ma mère.
Je ne suis pas ta mère.
Je me sens coupable et je ne sais pas pourquoi.
C'est l'amour seul qui peut me sauver et c'est l'amour qui m'a détruit.
Un champ, un sous-sol, un lit, une voiture.
Dans un jour ou deux, je retournerai sur une autre histoire, même si l'histoire est maintenant si installée qu'on pourrait parler de relations.
Arrête.
Le cri d'une jonquille.
La souillure d'un cri.
J'observais mon père qui battait ma mère avec une canne.
Une souillure.
Un écho.
Une souillure.
Je suis désolé que tu aies vu ça.
Je suis désolé qu'il ait fait ça.
Je désespère du désespoir.
Pas de regret.
Je le jure, je ne supporte pas de te regarder.
Je n'ai rien fait, rien.
Je n'ai rien fait.
Je veux me sentir physiquement comme je me sens émotionnellement. Affamé. Frappé.
Brisé.
Il m'achète une trousse de maquillage, blush, rouge à lèvres et ombre à paupières. Et je me farde le visage de bleu, de traces de sang, de plaies, de bosses. Et j'écris sur le miroir en rouge foncé, moche.
La mort est mon amant qui veut t'emménager.
Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie ce que tu dis?
Sois une femme, sois une femme. Je t'emmerde.
Il y a quelque chose de fort peu flatteur à être désiré quand l'autre est si saoul qu'il ne voit plus rien.
Je t'emmerde.
J'ai essayé de lui expliquer que je ne veux pas dormir avec quelqu'un qui ne saura pas mesurer à quel point la matinée du lendemain m'est pénible. Mais il était sorti avant que j'aie fini de parler.
CQFD.
Encore au lit avec papa.
Ces jeux qu'on pratique. Ces mensonges qu'on débite.
Tes cheveux sont un acte de Dieu.
Une petite Vietnamienne, l'intégralité de son existence trouvant sens et permanence dans les 30 secondes où elle a fui son village, la peau carbonisée, la bouche ouverte.
Personne ne peut me haïr plus que je ne me hais.
Je ne suis pas ce que je suis ce que je fais.
C'est terrible.
C'est vrai. Donc, dans Manque, viol, pédophilie, homosexualité, mort, amour, dépression, rapport à la mère, autodestruction, question de Dieu, ou plutôt de la foi. Voici pour les thèmes abordés. Pour moi, il y a une place prépondérante à l'amour dans Manque, et on décèle aussi déjà les problématiques personnelles de Kane. Pour moi, le texte est précurseur, tant par sa forme que par ses propos, à 448 psychoses. Il y a un autre thème aussi dans Manque, c'est le plagiat, le faussaire. Et il faut savoir ici que Kane s'inspire de la pièce Ashes to Ashes de Pinter. 448 psychoses, 448 psychoses, 1999. 100. 91. 84, 81, 72, 69, 58, 44, 37, 38, 42, 21, 28, 12, 7.
Je suis triste. Je sens que l'avenir est sans espoir et que tout ça ne peut pas s'arranger. Je suis fatiguée et mécontente de tout. Je suis un échec total sur le plan humain. Je suis coupable. Je suis punie. J'aimerais me tuer. J'étais capable de pleurer avant, mais je suis maintenant au-delà des larmes. J'ai perdu tout intérêt pour les autres. Je ne peux pas prendre de décision. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas penser. Je ne peux pas vaincre ma solitude, ma peur, mon dégoût. Je suis grosse. Je ne peux pas écrire. Je ne peux pas aimer. Mon frère est mourant, mon amour est mourant. Je les tue tous les deux. Je fonce vers ma mort. Je suis terrifiée par les médicaments. Je ne peux pas faire l'amour. Je ne peux pas baiser. Je ne peux pas rester seule. Je ne peux pas rester avec les autres. Mes hanches sont trop fortes. J'ai horreur de mes organes génitaux. À 4h48, quand le désespoir fera sa visite, je me pendrai, au son du souffle de mon amour. Je ne veux pas mourir. Je me suis trouvée si déprimée par le fait d'être mortelle que j'ai décidé de me suicider. Je ne veux pas vivre. Je suis jalouse de mon amour qui dort et lui convoite son inconscience artificielle. Quand il s'éveillera, il m'enviera ma nuit à penser sans dormir et ma parole que les médicaments ne brouillent pas. Je me suis résignée à la mort cette année. Il y en a qui parleront d'autocomplaisance. Ils ont bien de la chance de ne pas en connaître la vérité. Il y en a qui reconnaîtront le simple effet de la souffrance. C'est là ce qui devient mon état normal.
Avez-vous des projets ?
Prendre tous les cachets, m'ouvrir les veines et me pendre.
Tout ça en même temps ?
On ne risque pas trop de croire que c'est un appel à l'aide.
Ça ne marcherait pas.
Bien sûr que si.
Ça ne marcherait pas. Vous auriez d'abord sommeil à cause des cachets et n'auriez plus l'énergie de vous ouvrir les veines.
Je serais debout sur une chaise, un nœud autour du cou.
Si vous étiez seule, pensez-vous que vous pourriez vous nuire ?
Je le crains, oui.
Ça pourrait faire barrage ?
Oui. C'est la peur qui m'éloigne des rails. Je prie simplement pour que la mort soit bien le putain de terminus. Je me sens comme si j'avais 80 ans. Je suis fatiguée de la vie et mon esprit veut mourir.
C'est une métaphore, pas la réalité.
C'est une comparaison.
Ce n'est pas la réalité.
Ce n'est pas une métaphore, c'est une comparaison. Mais même si c'en était une, le propre d'une métaphore, c'est d'être réel.
Vous n'avez pas 80 ans. Si ? Si ? Ou si ?
Est-ce que vous méprisez tous les gens malheureux ? Ou est-ce que ça m'est réservé ?
Je ne vous méprise pas, ce n'est pas votre faute. Vous êtes malade.
Je ne crois pas.
Non ?
Non. Je suis déprimée. La dépression, c'est de la colère. C'est ce que vous avez fait qui se trouvait là et à qui vous en voulez.
Et vous en voulez à qui ?
À moi. Abstraction jusqu'au... Désagréable, inacceptable, inintéressant, impénétrable, impropre, irrespectueux, irreligieux, impénitent. Détestation, dislocation, désincarnation, déconstruction. Je n'imagine pas clairement qu'une âme au monde pourrait, voudrait, devrait ou voudra. Et si ça se produisait, je ne pense pas clairement qu'une autre âme, une âme comme la mienne, pourrait, voudrait, devrait, ou voudra. Insubordonnée. Je sais ce que je fais bien trop bien. Rien d'un orateur né. Irrationnel, irréductible, irrachetable, méconnaissable. En déraillement, en dérangement, déformé. Forme spontanée. Obscure jusqu'au vrai, juste, correct. Quelqu'un ou quelque autre, chacun, chaque, tous, noyant dans un océan de logique ce monstrueux état de paralysie. Toujours malade.
Symptômes. Ne mange pas, ne dort pas, ne parle pas, aucune pulsion sexuelle, désespéré, veut mourir. Diagnostic. Chagrin pathologique. Sertaline, 50 mg, insomnie aggravée, forte anxiété, anorexie, perte de poids 17 kg, accentuation des pensées, projet et intention suicidaire, suspendu après hospitalisation. Zopiclone, 7,5 mg, adormi, suspendu après crise d'urticaire, tentative de la patiente de quitter l'hôpital contre l'avis médical, retenue par 3 infirmiers, 2 fois plus grands qu'elle. Patiente menaçante et peu coopérative, pensée paranoïade. Croit que le personnel hospitalier cherche à l'empoisonner. Melril, 50 mg, coopérative. Lofépramine, 70 mg, dose portée à 140 mg, puis à 210. Reprise de poids, 12 kg, perte de la mémoire rapprochée, pas d'autre réaction. Dispute avec un jeune médecin qu'elle a accusé de l'avoir trompée, après quoi elle s'est rasée la tête et tailladée les bras avec une lame de rasoir. Patiente confiée aux soins de la collectivité à l'arrivée aux urgences d'un patient psychotique en crise nécessitant davantage une hospitalisation. Citalopram, 20 mg, crise de tremblement, le matin, pas d'autre réaction. L'ofépramine et citalopram suspendus quand la patiente a eu marre des effets secondaires et de l'absence d'amélioration notable. Symptômes liés à la suspension du traitement, étourdissement et confusion d'esprit. La patiente tombait, s'évanouissait et allait au-devant des voitures. Idée délirante, croit qu'un médecin est l'antéchrist. Fluoxétine hydrochloride, non commercial Prozac, 20 mg portée à 40. Insomnie, appétit irrégulier, perte de poids 14 kg, forte anxiété, orgasme impossible, pensée homicide à l'encontre de plusieurs médecins et fabricants de produits pharmaceutiques, suspendu. Humeur, une putain de colère. Affect, une grande colère. Thorazine, 100 mg, adormi, plus calme. Venlafaxine, 75 mg, portée à 150, puis à 225 mg. Étourdissement, pression artérielle basse, maux de tête, pas d'autres réactions, suspendu. Ceroxate poussé par patiente. Hypochondrie, mentionne des clignements d'yeux spasmodiques et une forte perte de mémoire comme preuve de dyskinésie tardive et de démence tardive. A refusé tout traitement supplémentaire. Sans aspirine et une bouteille de Cabernet Sauvignon Bulgare, 1986. La patiente s'est réveillée dans une mare de vomissures et a dit « Qui dort avec un chien se lève avec des puces ». Forte douleur d'estomac, pas d'autre réaction.
Ouverture de la trappe, lumière crue. Une table, deux chaises et pas de fenêtre. C'est ici que je suis et voilà mon corps, qui danse sur du verre. En un temps accident où il n'est pas d'accident. Vous n'avez pas le choix arrive après. Coupez-moi la langue, arrachez-moi les cheveux, extirpez-moi les reins, mais laissez-moi mon amour. Je préférerais avoir perdu mes jambes, m'être fait sauter les dents, m'être fait gicler les yeux, qu'avoir perdu mon amour. Brille, scintille, cingle, brûle, tord, serre, effleure, cingle, brille, scintille, cogne, brûle, flotte, scintille, effleure, scintille, cogne, scintille, brille, brûle, effleure, serre, tord, serre, cogne, scintille, brûle, flotte, brille, scintille, brûle. Jamais cela ne viendra. Effleure, scintille, cogne, cingle, tord, cingle, cogne, cingle, flotte, scintille, brille, cogne, tord, serre, brille, serre, effleure, scintille, tord, brûle, scintille, effleure, brille, effleure, flotte, brûle, serre, brûle, scintille, brûle, brille. Rien. À jamais.
Sarah Kane fait partie des dramaturges, héritiers d'une mémoire collective qui outrepasse les frontières de la mémoire directe et leur permet d'opérer une fusion entre les traumatismes qui ont bouleversé leur histoire privée et les tragédies de la grande histoire. J'avais envie de terminer cette émission, avant de vous donner les références, avec une dernière réplique, une des dernières répliques même de Manque. Et n'oubliez pas que la poésie est pour son propre bien langage. Rapidement aussi, parce que du coup je me suis bien servi de ces bouquins pour faire vous préparer cette émission. Alors, il y a le premier ouvrage, Le théâtre anglophone de Shakespeare à Sarah Kane, L'envers du décor, aux éditions L'Entretemps, un ouvrage collectif coordonné par Claude Coulon et Florence March. L'autre ouvrage, et le plus important sur lequel je me suis inspirée, Voyage au bout du possible, Les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane, d'Elisabeth Angel Pérez, aux éditions Klinkskik. C'était pas facile à prononcer. Et également Love Me or Kill Me, Sarah Kane et le théâtre de Graham Saunders avec une postface d'Edouard Bond, édition L'Archant 2004. Vous pouvez voir aussi l'ensemble des œuvres de Kane en français aux éditions de L'Arche. Si vous voulez en langue originale, c'est édité chez Methuen Drama. Et pour les références internet, Wikipédia et théâtrecontemporain.net.
Merci à tous. C'était une émission donc préparée par Pauline Thirault. Merci donc Stéphane Samuel. Pour l'actualité théâtrale, je vous invite encore une fois à vous déplacer à Saint-Étienne, puisqu'il y a la quinzaine Rosa Luxembourg. Donc tous les jours à Saint-Étienne, il se passe des lectures, spectacles, expositions, concerts autour de cette militante. Vous pouvez retrouver donc l'intégralité du programme sur quinzaine-rosa-luxembourg.blogspot. À la semaine prochaine et au revoir tout le monde.
Merci.
Bonne semaine.
Merci.